tout de suite, je retrouve mon invité. Bienvenue Patrice Saunier pour cette émission, pour nous parler bien sûr de celui que vous aimez beaucoup, en tout cas son œuvre, Arthur Rimbaud. Patrice Saunier, vous êtes auteur, mélodiste, interprète, et vient de paraître donc une seconde édition de votre livre « La bohème déchirée » consacrée à Arthur Rimbaud. Alors bien sûr, vous allez nous parler de ce livre, peut-être pourquoi une seconde édition. Alors, on va peut-être revenir sur le premier, qui est un magnifique livre d'artiste, « Ma bohème déchirée ».
Le premier livre, si vous voulez, c'est un livre d'artiste, enfin un livre avec des gravures originales, avec deux CD à l'intérieur qui correspondent à la comédie musicale. Et j'ai pensé qu'il fallait mieux faire un livre que tout le monde pouvait emporter avec lui, dans son jardin, au bord de la Bléone, au bord de la Seine, même si elle déborde en ce moment. Et sur ce nouveau livre, qui est un petit format, il y a toujours les gravures, il y a les textes, bien sûr, et puis surtout, il y a des QR codes à chaque page qui permettent de lire et d'écouter en même temps la musique et le texte qui est parlé ou chanté. C'est très facile d'utilisation et ça permet donc, avec son téléphone, de lancer le QR code et d'écouter au fur et à mesure. Et moi-même, qui connais à peu près par cœur les textes de Rimbaud, j'ai été surpris par le plaisir d'écouter un livre, c'est le cas de le dire, de lire et écouter un livre. Donc je suis assez content de...
Alors, on n'a pas l'habitude de voir ce format.
Alors, je suis allé à la FNAC, un peu de partout. C'est la première fois que ce genre de livre existe. Donc, c'est vraiment quelque chose de novateur, en fait, de nouveau, voilà. Donc, que je vais essayer de présenter aux éditeurs. L'essentiel, quand même, au départ, c'était de toute façon de faire ce livre. Je parle peut-être de pourquoi j'ai fait ce livre, en fait.
Bien sûr.
Alors, j'ai voulu faire parler Rimbaud, le faire chanter. Il faut savoir que Arthur Rimbaud n'a jamais vendu un seul livre. Il n'a jamais cherché à en vendre un seul, d'ailleurs. Il a commencé à écrire à l'âge de 14 ans, à peu près, et il a arrêté d'écrire à 19 ans et demi. Alors, il est sorti des centaines et des centaines de biographies, de livres sur lui. Et notamment, dans les biographies, j'ai constaté que les gens qui écrivaient ces livres parlait souvent plus d'eux que d'Arthur Rimbaud. Et ça m'ennuyait. Et donc j'ai voulu faire en sorte que dans ce livre, c'est vraiment lui qui a la parole avec ses mots, ses textes, sa prose. Et j'ai fait des montages, à la fois des montages de lettres, des montages de textes. Et j'ai voulu qu'en fait, on s'aperçoive que vraiment chez Arthur Rimbaud, tout a été écrit demain matin, tellement c'est moderne, mais à un point qu'on ne saurait même imaginer, en ce qui concerne par exemple la servitude de la femme, en ce qui concerne la religion, en ce qui concerne la guerre, tout a été dit. Donc on peut vraiment, chaque fois qu'il se passe quelque chose, on pourrait dire que Rimbaud l'a déjà dit, l'a déjà pensé. Mais il faut savoir quand même que les philosophes de l'Antiquité avaient déjà aussi dit des choses, hein, bien entendu.
Donc c'est déjà ce premier livre magnifique que vous avez aussi sous les yeux, qui est un format exceptionnel, avec les très, très belles gravures de Pierre Laroche.
Ah oui, ça c'est
un livre qui vous a demandé bien sûr du temps pour la réalisation de ce livre d'artiste.
Oui, disons qu'on a travaillé à peu près... Moi, j'ai fait le montage des textes. J'ai travaillé à peu près 5 ans dessus. Et puis après, avec Christophe Domingue, avec qui j'ai fait la musique, lui a fait les arrangements. On a travaillé... On a 3 ans de studio pour pouvoir enregistrer cette comédie musicale.
Alors, on va venir à cette comédie musicale. Donc, maintenant, on va pouvoir l'écouter avec ce livre que l'on pourra trouver où, alors
Alors, pour l'instant, on peut le trouver chez moi, pour l'instant.
Oui,
après,
d'accord.
On verra.
Et quel est le tarif?
Il est à 24,90.
D'accord.
Très important.
Et donc, on peut vous contacter, vous envoyer un mail pour le recevoir.
Voilà. Oui.
Alors, on va voir donc les 4 parties de cette comédie musicale.
Oui, en fait, la comédie musicale, je l'ai déclinée en 4 parties, de l'enchantement au désenchantement, Alors, on voit Rimbaud très très jeune qui nous parle des filles, qui nous parle de la bohème. Puis arrive la guerre de 1870, la commune, quelque chose d'effrayant. Et là, on assiste au désenchantement. Ensuite, la deuxième partie s'intitule « Voleur de feu ». Alors Arthur nous indique, à son avis, ce que devrait être la poésie. Alors il faut savoir que chez Rimbaud, c'est de la poésie objective. C'est pas de la poésie subjective, les petites fleurs, les petits oiseaux. La poésie de Rimbaud, on peut la toucher, elle est matérielle. Je donne peut-être un exemple. Quand j'étais professeur, il y avait un inspecteur qui était venu me voir. Et j'avais un cours qui était sur les facteurs de production. Mmh. Alors j'ai dit aux élèves, voilà, je veux marquer au tableau une phrase. Celui qui voit quelque chose dans cette phrase, il me l'explique. Et s'il a compris, il peut s'en aller chez lui parce qu'il a tout compris. Alors j'écris au tableau, la main à plume vaut la main à charrue. Jamais je n'aurai la main. Après, la domesticité mène trop loin. Jamais je ne travaillerai. Le travail est aussi loin de moi que l'est mon ongle de mon œil. Alors, c'est vrai qu'a priori, comme ça, cette phrase, elle peut paraître difficile, alors que les mots sont simples, des mots très très simples. La main à plume vaut la main à charrue. C'est très très moderne. Ça a été écrit demain matin. La main à plume, c'est la force de travail du travailleur intellectuel, de celui qui travaille dans un bureau, le notaire, l'avocat, l'auteur, le compositeur. Et la main à charrue, c'est la main du travailleur manuel. La main à plume vaut main à charrue. Il n'oppose pas les deux mains, les deux forces de travail. Vous rendez compte comme oui. C'est important de ne pas mépriser celui qui a les mains dans le cambouis, celui qui fait de la maçonnerie, qui en plus souvent construit des maisons mais n'a pas de maison parce qu'il touche un salaire tellement misérable. La main à plume vaut main à charrue. Jamais je n'aurai la main. Rimbaud est un linguiste. Hein. Jamais je n'aurai la main. Jamais je n'apporterai ma main. À qui ? À celui qui a le capital et qui lui dira « Tu fais ça !» sans discuter. Donc la main à plume vaut main à charrue. Jamais je n'aurai la main. Jamais je n'apporterai ma main à qui que ce soit. Après, la domesticité mène trop loin. Parce qu'après, je serai obligé de faire ce qu'on me dit de faire. Et j'ai peut-être pas envie de le faire. Jamais je ne travaillerai. Le travail est aussi loin de moi que l'est mon ongle de mon œil. Alors le crétin dit, on est obligé de travailler. Mais c'est pas ça qu'il dit. Il dit que justement, il ne travaillera jamais sous le joug de celui qui lui dira, tu fais ça. Tu seras mal payé en plus, éventuellement. Donc, je connais pas quelqu'un qui a plus travaillé que Rimbaud. Mais, voilà, cette phrase explique vraiment les facteurs de production. Le travail, le capital, qui sont les deux facteurs. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas de capital. Bien sûr, s'il n'y a pas de main, eh ben, le capital, quelque part, il ne servira à rien. Alors, je me suis fait, bien entendu, sortir par l'inspecteur, qui avait quand même trois qualités. Puisque pour être inspecteur, il faut trois qualités. Ne pas aimer les élèves, ne pas aimer enseigner et ne pas s'aimer soi-même. Bon, ça, c'est un autre problème. En tout cas, il y a des élèves qui m'ont dit « Monsieur, ça veut dire ça, ça veut dire ça. » Alors, j'avais dit à l'inspecteur « C'est pas parce que vous n'avez pas compris, etc., etc. »
Rebelle, déjà. On écoute une première chanson ?
Voilà, c'est l'introduction de la comédie musicale. Voilà. Oui. À 7 ans, j'écrivais des romans sur la vie.
Aujourd'hui, toi ou Isabelle, venez Marseille, par train express. Lundi matin, on ampute ma jambe. Danger, mort. Affaire sérieuse à régler. Arthur, hôpital, conception. Thank you.
À 7 ans, je faisais des romans sur la vie du grand désert, où luit la liberté ravie. Forêt, soleil, rive, savane. Je m'aidais de journaux illustrés où, rouge, je regardais des Espagnols rire et des Italiennes. Quand venait l'œil brun, folle, en robe d'indienne. 8 ans, la fille des ouvriers d'à côté, la petite brutale, et qu'elle avait sauté dans un coin sur mon dos en secouant ses tresses, et que j'étais sous elle, je lui mordais les fesses, car elle ne portait jamais de pantalon. Et par elle, meurtrie des poings et des talons, remportait les saveurs de sa peau dans ma chambre. Des rêves m'oppressaient chaque nuit dans l'alcôve. Je n'aimais pas Dieu, mais les hommes qu'au soir fauve, noir, en blouse, je voyais rentrer dans le faubourg. Je rêvais la prairie amoureuse, où des houles lumineuses, parfums sains, pubescence d'or, font leur remuement calme et prennent leur essor. Et comme je savourais surtout les sombres choses, quand, dans la chambre nue aux persiennes closes, je lisais mon roman sans cesse médité, tandis que se faisait la rumeur du quartier, en bas, seul, et couché sur des pièces de toile écrues, je pressentais violemment la voile. Jadis, si je me souviens bien, ma vie était un festin où s'ouvraient tous les cœurs, où tous les vins coulaient. Je croyais à tous les enchantements. Jadis, si je me souviens bien, ma vie était un festin où s'ouvraient tous les cœurs, où tous les vins coulaient.
Et voilà donc une première écoute de « À 7 ans, j'écrivais des romans sur la vie ». Alors, Patrice Saunier.
En fait, on a écouté l'introduction de la comédie musicale et ensuite arrivait vraiment l'enchantement. L'enchantement, c'est... Bon, parce qu'il dit « Jadis, si je me souviens bien, ma vie était un festin où s'ouvraient tous les cœurs, où tous les vins coulaient. Je croyais à tous les enchantements. » Et donc après, on arrive à l'enchantement, justement, quand il avait 15 ans et qu'il écrit « Roman, on n'est pas sérieux quand on a 17 ans et qu'on a des tilleuls verts sur la promenade. Les tilleuls sentent bon dans les bons soirs de juin. L'air est parfois si doux qu'on ferme la paupière. Le vent, chargé de bruit, a des parfums de vigne et des parfums de bière. Voilà qu'on aperçoit un tout petit chiffon d'azur sombre piqué d'une mauvaise étoile qui se fond avec de doux frissons, petites et toutes blanches. Nuit de juin, 17 ans, on se laisse griser la sève et du champagne et vous monte la tête. On divague, on se sent aux lèvres un baiser qui palpite là, comme une petite bête. Alors, c'est vraiment... l'enchantement, c'est... Comme tous les adolescents... et alors, à propos de cette chanson, justement... Léo Ferré l'a reprise. Il a écrit cette, enfin, il a mis la musique sur roman quand son fils est né. Et dans cette comédie musicale, il y a de nombreuses chansons qui avaient été chantées par Léo Ferré de Rimbaud, que vraiment, alors que j'adore Léo Ferré, que je n'aimais pas du tout. Et donc, celles-ci, par contre, je les ai... j'ai fait une nouvelle musique. Je trouve que ça ne correspondait pas à la réalité. Par exemple, pour celle-ci, là, roman, Ferré, il nous dit « On n'est pas sérieux quand on a 17 ans. Un beau soir, foin des bocs et de la limonade. » Moi, c'est « On n'est pas sérieux quand on a 17 ans. Un beau soir, foin des bocs. » Je sais pas, il y a plus d'engouement, plus de... Par contre, celle qu'on vient d'écouter avant, alors là, vous l'écoutez par Léo Ferré, après, vous n'avez plus le droit de la chanter. Les poètes de 7 ans, c'est une merveille. Voilà, attention, hein, ça, c'est bon, point de vue. Hein, J'aime Ferré, hein. J'aime tous les poètes, d'ailleurs.
On écoute « N'eus-je pas un jour une jeunesse aimable ?»
Voilà, ben oui, c'est ce qui va amener justement au désenchantement.
Jadis, n'eus-je pas une fois une jeunesse aimable, héroïque, fabuleuse, à écrire sur des feuilles d'or ? Trop de chance. J'essaie de m'émouvoir au souvenir de l'enfance mendiante. Ah, cette vie de mon enfance, la grande route, sobre, surnaturellement, plus désintéressée que le meilleur des mendiants, fière de n'avoir ni pays, ni amis, quelle sottise c'était, et je m'en aperçois seulement. L'automne, déjà. Mais pourquoi regretter un éternel soleil si nous sommes engagés à la découverte de la clarté divine, loin des gens qui meurent sur les saisons. L'automne, notre barque élevée dans les brumes immobiles, tourne vers le port de la misère, la cité énorme au ciel taché de feu et de boue. Ah, les haillons pourris, le pain trempé de la pluie, l'ivresse, les mille amours qui m'ont crucifié. Un grand vaisseau d'or, au-dessus de moi, agite ses pavillons multicolores sous les brises du matin. L'âge des chimères.
Alors là, on va aborder la guerre de 1870 qui a opposé la Prusse et la France. Et Arthur peut-être se promenait dans la campagne, il a peut-être vu un soldat mort. Mais en tout cas, au départ, quand il a écrit ce texte, que tout, en principe tous les écoliers les connaissent, les étudiants, le Dormeur du Val, il a écrit ce texte, au départ, c'était vraiment un texte champêtre. Et puis c'est à la fin où justement on va s'apercevoir qu'il s'agit d'un soldat mort et de la guerre terrifiante. Il faut savoir qu'il avait 15 ans quand il a écrit « Dormeur du Val », qu'on va certainement écouter maintenant, avec Alain Garcia à la guitare, à l'arrangement guitare.
C'est un trou de verdure où chante une rivière, accrochant follement aux herbes des haillons d'argent, où le soleil de la montagne fière lui. C'est un petit val qui mousse de rayons. Un soldat jeune, bouche ouverte, tête nue, et la nuque baignant dans le frais cresson bleu d'or. Il est étendu dans l'herbe sous la nue, pâle dans son lit vert où la lumière pleut. Les pieds dans les glaïeuls, il dort, souriant comme sourirait d'un enfant malade. Il fait un somme, nature berce-le chaudement, il a froid. parfums ne font pas frissonner sa narine. Il dort dans le soleil, la main sur sa poitrine tranquille. Il a deux trous rouges au côté droit.
Superbe.
Alors là, c'était vraiment intéressant. C'était la dernière phrase. Il a deux trous rouges au côté droit. C'était comment le dire. Et ça, ça nous a pris un temps absolument fou. Encore une fois, quelque part, ça sert à rien. Moi, j'appelle la poésie l'inutile primordial. L'inutile primordial. C'est quand même extraordinaire, quand même. Il a deux trous rouges au côté droit. Comment le dire ? Le dire simplement, il y a deux trous rouges au côté droit. Ou alors, il a deux trous rouges au côté droit. Enfin, il fallait trouver le... Ça, c'était vraiment, vraiment intéressant. Alors là, comme ça passe très, très vite et que je parle trop... On va écouter un texte qui s'appelle « Qu'est-ce pour nous, mon cœur ?». Alors celui-là, il est très très important parce qu'il nous parle de la Commune de Paris qui a duré 72 jours, qui s'est terminée par une semaine sanglante et qui a provoqué environ, on va dire, 10 000 morts. Et ça, je vous invite tous à lire l'histoire de la Commune. C'est absolument terrifiant et il faut connaître pour justement appréhender les problèmes d'aujourd'hui.
C'est quelle chanson dans le CD ?
Oui, c'est « Qu'est-ce pour nous, mon cœur ?» Vertige.
C'est pas ça.
Qu'est-ce pour nous, mon cœur, que les nappes de sang et de braise aient mis le meurtre et les longs cris de rage, sans vaut de tout enfer, renversant tout ordre, et l'Aquilon encore sur les débris. Vengeance, rien, mais si, tout encore, nous la voulons, industriel, prince, sénat, périssez, puissance, justice, histoire, abat, ça nous est dû. Le sang, le sang, la flamme dort. Tout à la guerre, à la vengeance, à la terreur, mon esprit. Tournons dans la morsure, ah, passé, république de ce monde, des empereurs, des régiments, des colons, des peuples, assez. Cris de rage.
non frères, à nous, romanesques amis, ça va nous plaire. Jamais nous ne travaillerons au flot de feu. Europe, Asie, Amérique, disparaissez. Notre marche vengeresse a tout occupé. Cités et campagnes, nous serons écrasés. Les volcans sauteront et l'océan frappé. Ils sont des frères, noirs inconnus. Si nous allions, allons, allons au malheur, je me sens frémir. La vieille terre sur moi, de plus en plus à vous. La terre fond.
Ce n'est rien. J'y suis. J'y suis toujours. Là, je voulais préciser quand même que la voix féminine, c'est celle de Laure Horace. Et la guitare, c'est Éric Berthollet. Et c'est vrai que malgré toute la violence qu'il peut y avoir dans la musique, dans la guitare, dans la façon de chanter, ça remplacera jamais la chose terrifiante qu'est la guerre, qu'était la commune, qui est aujourd'hui ce qui se passe en Irak, en Syrie et dans tous les pays du monde où il y a des guerres. Mais bon, voilà, c'est à méditer peut-être un petit peu. Voilà, là on passe à quelque chose de plus qui respire davantage. Il a inventé la couleur des voyelles et c'était un pari. On lui a dit, je parie que t'es pas capable d'inventer la couleur des voyelles. Donc voilà, moi je trouve ça magnifique.
Oh,
voyelles. Je dirai voyelle, quelques jours voyelle, vos naissances latentes.
Ah, noir corset velu des mouches éclatantes qui bombinent autour des puanteurs cruelles. Golfe d'ombre. Candeur des vapeurs et des tentes, lance des glaciers fiers, roi blanc, frisson d'ombelle. Y pourpre, sans cracher, rire des lèvres belles, dans la colère ou les ivresses pénitentes.
Voyelle.
Voilà, donc c'était...
C'était un extrait de des voyelles de Rimbaud. Alors, peut-être que... Pour terminer, on va écouter la chanson emblématique « Ma bohème », en sachant que le livre s'appelle « La bohème déchirée ». Peut-être donc terminer par « La bohème », celle qui m'a fait aimer Rimbaud le jour où le professeur est rentré, j'étais en sixième. Et en même temps, il nous a récité d'abord « La bohème » et puis après un texte de Verlaine. Et là, je me suis dit « La beauté existe ». Voilà.
Alors on l'écoute et puis on rappelle qu'on peut donc vous commander le livre qui vient de paraître. À quelle adresse mail ?
Patrice Arthur, attaché, patricearthur.saunier, S-A-U-N-I-E-R, @laposte.net.
Merci, alors on écoute La Bohème.
Je m'en allais les poings dans mes poches crevées, mon paletot aussi devenait idéal. J'allais sous le ciel muse et j'étais ton féal. Oh là là, que d'amour splendide j'ai rêvé. Mon unique culotte avait un large trou. Petit pousset rêveur, j'égrenais dans ma course des rimes. Mon auberge était à la grande ours. Mes étoiles au ciel avaient un doux froufrou.
Patrice, merci d'être venu nous parler, nous faire partager votre amour pour les œuvres d'Arthur Rimbaud. Et donc, on rappelle qu'on peut trouver le livre « La bohème déchirée » en version, donc livre avec QR code, pour pouvoir écouter la musique en même temps qu'on lit avec son téléphone. Et puis, il faudrait une émission par texte, c'est ça ?
Oh, pratiquement, enfin... Voilà, la grande librairie peut-être va un jour le faire, non ? Beaucoup de gens parlent d'Arthur Rimbaud, mais l'utilisent à des fins personnelles. Et ça, ça m'insupporte. En tout cas, j'étais content de participer à cette émission et peut-être d'avoir fait aimer, connaître un peu plus Arthur Rimbaud, même si c'est très court.
Et pourquoi pas, vous revenez quand vous voulez, si vous avez envie d'aller plus loin sur un texte ou l'autre.
D'accord.
Voilà. On a peut-être le temps d'en écouter une dernière.
Jamais je n'aurai la main. Là, ça parle justement. Jamais je ne travaillerai.
Allez, on écoute. Au revoir, bonne journée à tous.
Merci.
Il m'est évident que j'ai toujours été de race inférieure. De toute éternité, je ne puis comprendre la révolte. Ma race ne se souleva que pour piller, tels les loups à la bête qu'ils n'ont pas tué. J'ai horreur de tous les métiers, maîtres et ouvriers. La main à plume vaut la main à charrue, jamais. Après, la domesticité mène trop loin. Jamais je ne travaillerai. Le travail est aussi éloigné de moi que l'est mon ongle de mon œil. Jamais, jamais, je n'aurai la main. Je n'aurai la main. Oui, j'ai les yeux fermés à votre lumière. Je suis une bête. Je suis un nègre. Mais je puis être sauvé. Vous êtes de faux nègres, vous, maniaques, féroces, avares. Marchand, tu es nègre. Magistrat, tu es nègre. Général, tu es nègre. Empereur, vieille démangeaison, tu es nègre. Jamais, jamais, je n'aurai la main. Jamais, jamais, je n'aurai la main. Quel siècle à main. L'honnêteté de la mendicité me navre. Moi, je suis intact. Le sommeil dans la richesse est impossible. La richesse a toujours été bien publique. Prêtre, professeur, maître, vous vous trompez en me livrant à la justice. Je n'ai jamais été de ce peuple-ci. Je n'ai jamais été chrétien. Je suis de la race qui chantait dans le supplice. Vous vous trompez. Je suis loin de vendre du baume, mais je crois que les habitudes n'offrent pas de consolation au pitoyable jour. Jamais je n'aurai la main. Jamais.